création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. 2014, rencontre avec Alexandre Bacon, anthropologue, originaire d'une communauté inoue au lac Saint-Jean. 2016, programme de résidence hors les murs de l'Institut français et 35 jours passés sur la côte nord du Québec. Les Inuits sont reliés aux arbres, les Inuits connaissent leur animal totémique, les Inuits pratiquent poésie et magie. 2017, en collaboration avec la Muse en circuit et l'INA GRM, Eric M., Natacha Muslera, Gilles Mardi-Rossian composent cet atelier de création radiophonique ACR.
Route 138, Nitassinan, le chemin qui marche.
Le territoire nous enseigne la nuit.
L'érablière à tilleul.
Quand on est redescendu du bois, à l'âge de peut-être 6-7 ans, 6 ans, on m'a baptisé le nom de Omer. Mon deuxième nom. Omer Joseph. Omer Edgar Joseph. Saint-Homme. Ils m'ont donné ce nom-là. Alors, pour avoir une des deux qui était plus long, ça a toujours été Omer. Oh, tout le monde m'appelait Omer. J'ai oublié Wabun Jacob, l'étoile du matin, pour plusieurs années. Jusqu'à temps qu'ils nous prennent encore, qu'ils nous amènent dans des pensionnats. On savait pas trop, j'avais 6 ans. On savait pas trop c'est quoi qui se passait, on est arrivé dans ces écoles-là. Ils m'ont donné un autre nom. Mon nom avait changé pour le numéro 135. Je suis devenu 135.
De code switching qu'on appelle. À travers les mots innu, il y a des mots en français.
Le héros fondateur est un héros qui désobéit à la loi d'une certaine façon. Et il décide systématiquement de se faire une opinion par lui-même. Et ça, c'est important chez les Premières Nations, dans les relations sociales. Traditionnellement, nul n'était tenu d'obéir au chef. Et même dans une communauté, il va y avoir plusieurs chefs. Généralement, les chefs vont être désignés par les femmes, parce que les femmes occupent quand même une place importante, des positions politiques, si on veut. C'est difficile de télescoper ces termes-là sur les réalités sociales des Premières Nations, mais si on veut, en tout cas, un pouvoir décisionnel dans les collectivités. Chez les Iroquois, par exemple, c'était vraiment les femmes qui, elles, décidaient de qui était le chef. et pouvait le démettre du jour au lendemain sans préavis. Alors, les récits fondateurs, chez nous, le héros fondateur, c'est Tchakapesh. C'est le premier homme, c'est le récit du premier homme. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un premier homme qui va être façonné à partir de terre, comme c'est le cas dans la plupart des récits fondateurs. Chez Tchakapesh, ses parents sont, sont des animaux, si on veut, mais c'est pas décrit comme tel, mais ses parents sont des végétariens poilus. Le premier homme à manger des animaux, à se débarrasser de la terre des cannibales, à perdre ses poils. Mais reste qu'il y a plusieurs pratiques là, qui ont réussi à se faufiler, puis aujourd'hui, on peut enfin le faire au grand jour. Mais ça date pas de longtemps, hein? Ça date peut-être début dans les années 80, ça commence à sortir un peu aux années 90. Aujourd'hui, il y a plusieurs mouvements spirituels qui sont de retour dans les collectivités, où on pratique la tente de sudation, par exemple. C'est une des cérémonies là, qui est une des plus connues, en tout cas. Il y a encore aujourd'hui plusieurs cérémonies qui sont pratiquées chez nous. Ça a été fait, évidemment, dans le plus grand secret, parce que c'était diabolisé par les curés et autres missionnaires qui venaient.
Le son du tambour. Pourquoi que chez les Autochtones, on chante beaucoup le tambour, on chante notre joie, on chante nos peines, on chante le son du tambour, on chante nos rêves, parce qu'on les rend vivants. Exemple, les tentes à suer. Certains, plein de monde, le monde a entendu parler. Nous autres, on fait pas ça, tout bout de champ, les tentes à suer, une fois par semaine, tous les jours. Pourquoi? Les roches. Nous autres, on appelle ça le mochum, grand-père. Parce qu'ils sont vivants. C'est une planète. Un grand-père, c'est une planète à elle-même. Une planète. Donc, quand on le met au feu, on fait un génocide total pour notre propre guérison. C'est pour ça qu'on va respecter une tente à suer où on va juste prendre des offrandes comme le tabac, des fruits, puis un cadeau.
C'est ben, la danse des clochettes, les robes à clochettes. Puis c'est très spirituel, puis c'est une danse de guérison. Donc, quand tu te mets à danser ça, puis à te faire ta robe, tout ça, c'est un engagement spirituel, puis c'est une responsabilité de guérison envers ceux qui veulent être guéris. Puis on demandait aux gens qui étaient malades ou qui voulaient avoir une guérison de se rassembler au milieu là, du rond de Pawa. Puis les danseuses, ils ont dansé autour, mais il y avait beaucoup de monde, là. Il y en avait peut-être une vingtaine, si c'est pas plus. Les danseuses, il y en a qui ont vomi. Il y en a qui ont perdu connaissance. C'est chaque chant est plutôt une interprétation personnelle. Puis, tu sais, ça vient avec ton expérience de vie, puis ton, ce que tu reçois dans les rêves. Puis c'est sûr que ça a tout le temps une forme qui se ressemble, mais c'est tout le temps différent. Tu sais, puis t'as certains chants, par exemple, qui traversent les âges, mais la plupart, c'est pas des chants faits pour perdurer sur des siècles et des siècles.
Ben, je m'appelle Waoui Etlo Robertine Lafour. Puis, dans le fond, mon nom, ça veut dire halo de lune. Parce que quand je suis née, il y en avait un à l'entour de la lune. Le soir que je suis née.
C'est quoi ton animal totémique?
Mon animal totem, c'est...
Il m'a pas ici.
Le chaman parfait, c'était celui qui était né d'un homme élevé en femme et d'une femme élevée en homme. Et l'enfant de ces deux personnes-là était le chaman parfait. Alors, l'équilibre total entre l'énergie masculine et féminine en soi, qui ouvrait complètement la conscience au monde invisible.
Nous autres, c'est une langue qui n'est pas écrite. On n'a pas d'histoire. On n'a pas un livre pour dire telle date puis telle date, notre histoire. Là. Notre histoire est dans l'univers. L'histoire autochtone est dans l'univers. Dans l'infini. La façon de regarder pour un Innu, il y a deux manières. C'est dur à expliquer en français parce que vous autres, vous utilisez le mot « voir », « regarder ». Nous autres, il y a deux façons de regarder. Noirement. Noirement. Noirement, c'est animé, vivant. Chaque être humain, on utilise le mot noirement. C'est quelque chose qui est vivant. Il y a une énergie, il y a toute une forme de puissance à travers cette personne ou cette chose. Un arbre. Noirement, machito. En français, je vais le traduire, je regarde un arbre, c'est simple, c'est carré, c'est fait, c'est froid. Mais noirement, je sais qu'il y a une vie à travers cet arbre. Maintenant, je regarde la chaise en bois. Je vais utiliser noir peut-être, tête pointe. Tête pointe, c'est la chaise. Noir peut-être, c'est il n'y a plus de vie. C'est mort. Il n'y a plus d'énergie. L'esprit est parti. Ça veut dire qu'il y a deux méthodes de regarder, animé, inanimé.
Lorsqu'on parle de cinéma, Kamado Butano, c'est comme si on dirait c'est de la magie. On était un petit peu missionnaire à cette époque-là, dans les années 1970, parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de choses à faire, il y avait beaucoup de développement, il y avait beaucoup de problèmes sociaux, et on devait travailler là, à remonter la pente, je dirais, de notre communauté, parce que ce sont les non-autochtones là, qui géraient l'ensemble des programmes et des services de la communauté.
Les premiers missionnaires qui sont arrivés, D'abord, ils transportaient avec eux souvent des maladies européennes qui ont décimé. Là, tu vois, partout où les missionnaires arrivaient, toute la communauté mourait là, dans l'année qui suivait. Alors, c'est sûr qu'on s'est méfié de ces gens. Et puis, même dans certains cas, ils ont été tués.
Alors, ça a été une bataille continuelle. Puis encore aujourd'hui, lorsqu'on parle d'occupation du territoire, d'exploitation du territoire, on est obligé de se battre contre les gouvernements, les deux paliers de gouvernement. On est obligé de se battre contre les compagnies pétrolières, Hydro-Québec, au niveau de l'hydroélectricité. On est obligé de se battre contre les compagnies minières. On est obligé de se battre contre les non-autochtones qui occupent nos territoires, qu'on appelle maintenant les zones d'exploitation contrôlées. Et à ce moment-là, c'est une éternelle bataille, puis encore aujourd'hui, ça l'est. Qu'est-ce que tu fais de Mazouza? On se construisait une cabane en bois. Le gibier était à nos portes. Le castor, le lièvre, la perdrix. C'est ça qui nous permettait de nous en alimenter. On n'avait pas besoin d'accumuler 30 castors. Alors, effectivement, l'accumulation des biens, là, c'était pas la priorité des Autochtones. C'était de pouvoir vivre dans la nature, de pouvoir bénéficier de la nature. Ils n'étaient pas seulement chasseurs, draveurs, c'était des cueilleurs aussi de fruits sauvages, les bleuets, les framboises.
Donc c'est une reconstruction. S'ils disent que les Pawas, c'est leur culture, c'est une culture autochtone, mais qui est devenue pan-autochtone. Puis tout le monde y ajoute un peu son grain de sel, sa culture propre de son héritage, disons, de ses ancêtres. Puis ça, tout ça se mélange ensemble. Puis c'est le propre de la culture ou du mouvement des Pawas. Je peux faire un sacrilège envers pour certains autochtones de dire ça, mais que c'est beaucoup inspiré de l'image de l'Indien stéréotypé. Puis en même temps, c'est tellement plus que ça, sauf que c'est se réapproprier son image d'autochtone un peu aussi à travers ça. Puis bon, en même temps, c'est la pointe de l'iceberg, l'image, là, parce que t'as toute la façon de voir. Tu sais, t'as tout un enseignement qui vient avec la pratique. Tu sais, si tu danses pas pour danser, c'est souvent un mouvement aussi de guérison, avec tous les problèmes sociaux qui ont été engendrés là, par la tentative d'assimilation forcée, justement, là, du gouvernement canadien.
Comment se fait-il que les communautés de l'Ouest aient pu garder en fait ces rituels-là, ont pu les conserver par rapport à l'Est?
Ils ont été colonisés après, beaucoup, beaucoup plus tardivement, comme plus dans les années 1800, par rapport à, mettons, l'Est, c'est ici, bon, dès les années 1534, là, Jacques Cartier, 1603, 1608, la création de Québec. Donc déjà, il y a des métissages qui se sont faits, ben, des mélanges, puis les Inuits, les Autochtones de l'Est, ils ont quand même conservé leur tradition, mais ils ont été beaucoup plus exposés, disons, aux cultures européennes.
Thank you.
on vivait dans des périodes d'amour. On était à la chasse. Le plus loin que je peux me rappeler dans mes souvenirs, c'est que j'étais dans un coucher, puis j'ai regardé les étoiles. Puis j'attendais le craquement, un craquement de la neige. Plus tard, j'ai su que c'était dans un toboggan. J'attendais les craquements de raquettes de mon père qui marchait dans la neige. C'était des périodes où on vivait des tentes rondes. Ma grand-mère vivait la moitié de la tente et nous, on vivait l'autre moitié.
Elles ont été, dans la plupart des cas, elles ont été placées dans des lieux où on s'est dit qu'ils ne voudront jamais rester là, des lieux très exigus. La moyenne des réserves au Canada fait 1 km². Et pour sortir, ils devaient obtenir la permission du ministre. Alors, c'était des véritables prisons. C'était des prisons, c'était des camps, une forme de camp de concentration, si on veut. Et chaque communauté, là, était chapeautée par un représentant du ministère qu'on appelait le surintendant. Et qui s'assurait que tout le monde était bien tranquille. Dès qu'un chef était trop revendicateur, il était exilé aux États-Unis.
Ce numéro-là plusieurs années. Dans mes assiettes, dans mon linge, c'est écrit 135.
Des pensionnats indiens qui sont, en fait, il y en a 832 au Canada, qui sont des institutions qui visaient la scolarisation des jeunes autochtones, formellement, mais dans les faits, c'était des camps de rééducation où les jeunes étaient arrachés à leur famille par la police, s'il le fallait. Puis les enfants étaient retournés chez eux une année sur deux, généralement. Il y a eu des milliers d'enfants qui sont morts qui ont subi des sévices terribles, des sévices psychologiques, physiques, des agressions sexuelles massives. Rares sont les enfants qui n'ont pas subi d'agressions sexuelles dans ces pensionnats.
Je me rappelle à 6 ans qu'ils nous donnaient du papier sablé pour enlever la poux jusqu'au sang. On sablait nos mains. On nous disait que notre race était pas dans les normes de Dieu. On s'est trompé de race, de peau.
Toute cette idée-là de faire disparaître les Autochtones. Le voyant que les Autochtones ne disparaissaient pas, tu vois, en 1910, la consigne est envoyée à tous les pensionnats qu'aussitôt qu'un enfant contractait la tuberculose, il fallait l'obliger à côtoyer ses camarades de classe et à dormir le plus près possible de ses amis dans les dortoirs. Duncan Campbell Scott, qui était, si on veut, notre nazi à nous, qui, lui, parlait carrément d'une solution finale au problème indien. Et donc, lui, il a été ministre des Affaires autochtones pendant plus de 20 ans, de 1912 à 1922, si je me souviens bien. Et donc, lui, c'est lui qui envoie cette note-là à l'ensemble des pensionnats. Puis le responsable régional le questionne. Il dit, écoutez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là, les enfants vont mourir. Et lui répond, nous savons pertinemment que cette mesure va diminuer les résistances naturelles aux maladies des enfants autochtones, mais cela ne change en rien la recherche d'une solution finale vers laquelle est dirigée l'ensemble de notre politique indienne à l'égard des premiers peuples au Canada. Le mot d'ordre et l'expression étaient telles quelles, il fallait tuer l'Indien dans l'enfant. Alors, tout ce qui était culture autochtone, on leur a appris à détester la couleur de leur peau, à détester leur culture, à détester même leurs parents et à se détester eux-mêmes. Ce que ça a eu comme conséquence, c'est que les gens sont entrés dans des processus d'autodestruction.
On reconstitue à l'aide de différents types de fossiles qu'on recueille pour nous, dans mon équipe, dans les tourbières, qui sont des milieux où l'accumulation de la matière organique excède la décomposition et donc des milieux qui constituent des archives climatiques et paléo-écologiques extrêmement intéressantes et importantes. On refait l'histoire du climat, l'histoire de l'évolution de la végétation du Québec, depuis environ, pour la région ici, 8000 ans, les derniers 8000 ans.
L'érablière à bouleau jaune.
On voit l'apparition de l'humain, on est au Québec. Le paysage humain ou l'empreinte humaine dans le paysage a commencé à être marqué, je dirais, autour de 1850 pour nous. Le défrichement des terres était quand même pas très important. Il y avait beaucoup de petites communautés, des gens nomades aussi, beaucoup. Des petites communautés sédentaires de réponse de l'occupation humaine.
Toundra forestière.
Il y a un pollen qu'on voit qui est associé à une espèce introduite par les Européens, l'ambrosia ou l'herbe à poux, si vous voulez, qui, elle, s'installe sur une mauvaise herbe, mauvaise, entre guillemets, herbe, et qui pousse sur les territoires défrichés, par exemple. Alors, on commence à voir dans les diagrammes polliniques des fois 1800, mais plus prononcé 1850. Et là, on peut voir dans le paysage qu'il y a eu des plus grandes surfaces qui ont été déboisées et des couvertures d'agriculture, du territoire ouvert pour l'agriculture.
La sapinière à bouleau blanc.
Il y a eu 4 pics de froid extrêmement, extrêmement importants, dont le plus prononcé vers 1827, avec l'éruption, encore une fois, d'un volcan, accompagné de 4 minimums solaires extrêmement importants et bien documentés, là, qui ont fait que les tourbières et les milieux, il y a eu du pergélisol qui s'est développé, qui ont donné des paysages beaucoup plus nordiques et beaucoup plus subarctiques ou arctiques qu'ils ne l'avaient été depuis les 8000 dernières années environ. Et ça, il y a encore des reliques de ça dans le paysage.
Fait que tout ça, nous, on a cartographié, classifié ces forêts-là suite à des prédécesseurs aussi qui ont été très compétents. Le Québec a une première classification là, des domaines de végétation comme on vient de discuter depuis 1935.
Les...
L'air industriel, oui, on le voit. Puis là, on voit plus parce qu'on est capable de voir... dans les tourbières, ils pouvaient voir comme le plomb des véhicules autrefois et de l'exploitation du charbon aussi, tout ça, dans ces horizons. Alors, on peut voir aussi l'effet de l'industrialisation, mais l'effet des mesures, des fois, qu'on apporte, qui ont une empreinte positive dans le paysage aussi.
Généralement, c'est par des éclairs.
Bon.
Mais c'est sûr que c'est ça. C'est soit naturel, il y a les feux naturels, puis il y a les feux anthropiques. Les feux anthropiques, c'est des feux souvent qui ont été allumés par l'homme, surtout au début, des années 1910 à 1930. C'était une période d'agriculture intensive au Québec. Puis pour les cultivateurs, pour les aider dans leur défrichement, souvent ils mettaient le feu à la forêt. De sorte qu'après, c'était beaucoup plus facile de transformer la forêt en terre agricole. Classifier les forêts de l'ensemble du Québec. J'ai dû m'associer avec des gens qu'on appelle des paléoécologistes qui sont spécialisés autant dans les lacs, dans les tourbières que dans les forêts. Puis c'est par la complémentarité de ces différentes approches-là qu'on est capable de refaire l'évolution de la végétation et des feux et du climat de territoires là, distincts à l'échelle du Québec. Comprendre les changements de paysage. On a échantillonné des tourbières dans les derniers jours pour sonder à ce moment-là les sédiments lacustres dans le but aussi de reconstituer les paysages, puis après ça, comparer les histoires. Je suis ingénieur forestier. Je travaille au gouvernement du Québec, au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. J'ai fait un cours en génie forestier. Après avoir fait ce cours, j'avais décidé de faire une maîtrise justement sur l'île qui est en face de nous, qui s'appelle l'île Niapisco. Mais la finalité de tout ça, c'est d'améliorer notre aménagement des forêts au Québec. Plus on comprend leur évolution, plus on est en mesure de faire des traitements sylvicoles qui s'apparentent à ce que la forêt peut faire par ses différentes actions.
Parce qu'elle ne peut pas le faire toute seule.
On se trouve à cheval entre deux mondes. Parce que au 19e siècle, dans le cadre d'un processus d'assimilation qui était visé par les politiques canadiennes en matière autochtone, on a imposé un nouveau système politique, politico-administratif, qu'on appelle le Conseil de bande, et au travers lequel, donc, on imposait un système qui est basé sur la hiérarchie, sur la domination, sur la prédomination masculine sur le féminin, sur des systèmes de valeurs qui sont chrétiens. Alors, on a vraiment, là, il y a eu une confrontation importante. Dans plusieurs communautés, il y a eu une très grande résistance à accepter le modèle qui était imposé par le gouvernement fédéral. Alors, vraiment, à partir des années 50, 60, surtout 70, on voit l'émergence de nombreux mouvements autochtones partout aux États-Unis, au Canada, pour revendiquer vraiment que cesse le régime d'apartheid qui était en place. Puis la loi d'apartheid, d'ailleurs, d'Afrique du Sud, est basée sur la loi sur les Indiens. Ils sont venus s'en inspirer. Alors, c'est pas rien, ça. Encore aujourd'hui, on est aux prises avec ces dimensions-là de la loi qui sont extrêmement contraignantes et qui bloquent le développement dans les communautés. C'est 1854. Alors, il y a une première loi qui s'appelle l'Acte pour l'assimilation progressive des tribus sauvages du Canada. Alors, qui visait la sédentarisation forcée, la création des réserves, le contrôle des terres indiennes, la christianisation des peuples autochtones. Puis, à l'époque, évidemment, criminalisation de toutes les pratiques rituelles traditionnelles, des langues, et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on s'est mis aussi à mettre en œuvre la politique des pensionnats. Aujourd'hui, sur l'ensemble du Canada, là, il y a entre 40 et 50 % des Autochtones qui vivent hors réserve, qui ne vivent plus dans leur communauté. Alors ça crée une nouvelle dynamique sociale, des tensions ici, du racisme. C'est plus difficile pour un Autochtone d'obtenir un logement, d'obtenir un emploi. Il n'y avait aucune des 600 quelques communautés qui existaient au début des années 1800. La majorité des populations autochtones, il y en avait quelques-unes qui étaient sédentaires, surtout dans l'Ouest et dans le Sud. Mais dans la plupart des cas, c'était des populations qui avaient différents points d'arrêt dans l'année, environ 4. Alors, l'été, à l'automne, à l'hiver et au printemps. Et on suivait, en fait, là où il y avait des ressources alimentaires. Par exemple, justement, Tadoussac, c'était un lieu de rencontre millénaire. Québec en était un, à la rivière Moisy, à Sept-Îles, c'en était un aussi, là où il y a des communautés, à Machetéouillatch. Et donc, les curés s'installaient là. Et il y avait toute une série de menaces qui pesaient sur ceux qui venaient pas fatigués. elles sont au nombre de 617 là, réparties sur l'ensemble du territoire canadien. Donc 617 réserves autochtones. Les réserves sont des territoires fédéraux qui n'appartiennent pas en propre au peuple autochtone non plus. Donc, ce sont des territoires réservés, mais en fait, ce sont des territoires fédéraux sur lesquels les peuples autochtones disposent effectivement de droits distincts, mais ce sont tout était en place pour obliger les Autochtones à abandonner eux-mêmes leurs droits, leur statut d'Indien. Alors, c'était ça qui était l'objectif. Donc, ces mesures législatives, elles étaient extrêmement contraignantes. À titre d'exemple, un Autochtone ne disposait jamais de la majorité. Alors, il était considéré comme un pupille de l'État. Alors, il n'était jamais considéré comme ayant 18 ans ou 21 ans. Alors, il était constamment à la charge de l'État, n'avait donc pas de droit de vote. Et ce, jusqu'en 1960 au niveau canadien, 1967 pour la province du Québec, donc tout récemment. Et encore aujourd'hui, on est encore là-dedans. On est encore sous la domination du gouvernement fédéral qui maintient un peu, comme le FMI le ferait dans des pays d'Afrique, structurellement une pauvreté. Et les conseils de bande, qui sont comme des municipalités, hein, des mairies, si on veut, avec des pouvoirs locaux. Mais dans les faits, ils ont une autonomie qui est une autonomie administrative, c'est-à-dire qu'ils peuvent choisir qui ils embauchent, qui ils n'embauchent pas, quelle marque de crayon ils vont acheter, etc. Mais l'argent, quand il arrive dans les conseils de bande, il est déjà assigné à des postes budgétaires. Alors, il arrive avec des programmes spécifiques. Et donc, si on veut, les chefs et les élus ne peuvent être tenus imputables de la façon dont l'argent est dépensé. Parce que tout a déjà été élaboré dans les bureaux centraux du ministère des Affaires indiennes à Ottawa. Donc, l'imputabilité, c'est impossible de tenir les élus imputables de ces montants parce qu'ils ne décident pas où va l'argent. Elle est là, en fait, l'autonomie gouvernementale qui est recherchée chez les Premières Nations. C'est le pouvoir de dépenser, c'est la capacité de décider où la communauté décide de mettre ses ressources financières.
OK.
Si c'est trop fort, tu descends le... ça, c'est le niveau d'enregistrement. Là, tu es au maximum.
Cool, j'ai une
Donc, là, on l'est là. Et ça, c'est le volume du casque qu'il y a à fond pour l'instant. Voilà.
OK, je vais l'enregistrer. Wow.
Oui. Je viens t'enregistrer.
Sen hiç kimse daha gaji indi de uyuyor. Gaji mi niye gaji mi de uyuyor. Gaji mi amu de uyuyor. Şaji de uyuyor.
C'est une proie qui a été chassée par un serpent qui chasse.
Chez les Innus, on est encore même aujourd'hui dans une culture où l'oralité a une place plus grande que celle de l'écrit. La parole a une importance, une valeur qui n'est pas la même que dans la plupart des autres collectivités de racines occidentales. Alors, encore aujourd'hui, si on veut passer un message, vaut mille fois mieux passer par la radio communautaire. Et la parole a une importance. On ne peut pas gaspiller la parole. Bien sûr, tout le monde... Il y a tout le spectre des possibles dans les communautés, mais c'est... généralement, quand on entend la parole, quelqu'un qui, par exemple, justement, on dit... Tenir sa parole, ça a vraiment une très grande importance chez nous. Quand on s'engage à quelque chose oralement, c'est tout le contraire de l'expression qui dit « la parole s'envole, l'écrit reste ». Justement, là-bas, la parole ne s'envole pas, ou en tout cas, si elle s'envole, c'est pour être gardée par les esprits, si on veut. Elle continue d'habiter là, chaque instant qui passe après.
Kamachit.
parce que le terme vérité, le terme justice, même le terme santé sont toutes sortes d'expressions qu'on ne peut pas traduire littéralement. Ça même aucun sens, même celle de propriété, comme je disais tout à l'heure. Et c'était étranger. D'ailleurs, en langue autochtone, le fait de vouloir accumuler du matériel, c'est décrit comme une maladie mentale. Donc, quelqu'un qui est sain d'esprit ne voudra pas accumuler de matériel, en fait.
Ben, de savoir que dans la communauté a décidé de construire un nouveau terrain des jeunes. Et quand je discutais avec l'aubergiste de ce projet-là, lui m'a expliqué que lors des réunions préparatoires à la construction de ce projet-là, il y a différentes personnes impliquées au niveau politique puis au niveau de l'école qui ont dit que ce terrain des jeux sera réservé aux blancs de la communauté. Il n'est pas question que les enfants autochtones de la communauté voisine viennent sur ce terrain-là.
J'ai pas appris les termes géographiques, les termes de territoire, les termes pour désigner des rivières. J'ai parcouru le territoire de mon père simplement comme touriste. Finalement, il y a une ville qui a été aménagée à l'époque pour développer le barrage hydroélectrique de Berzémis 1, Berzémis 2. Et le territoire de mon père était juste en haut de la ville de Labriville, qui était située à 2 heures de route de Forestville.
C'est les rivières qui étaient les autoroutes chez nous. D'ailleurs, quand on traduit le mot « rivière » directement en français, ça dit le chemin qui marche. De la pensée occidentale, ce qui est le rapport au monde autochtone, c'est très difficile de rendre l'expérience de la réalité d'un point de vue autochtone. C'est très difficile de rendre l'intimité qui est partagée avec la forêt. Chez nous, par exemple, les vieux critiquaient un terme qui avait été adopté pour décrire le territoire des Innus. Ce qu'on appelle le Nitassinan. Le Nitassinan, c'est l'ensemble du territoire qui était celui des Innus. Mais quand on le traduit littéralement, Nitassinan, ça veut dire notre territoire. Et ils n'étaient pas d'accord avec ça. Ils disaient non, ce n'est pas notre territoire. C'est nous qui sommes de ce territoire. Nous appartenons à ce territoire. Nous sommes le territoire. Il n'y a pas de distinction entre soi et le territoire. Alors, s'il y a une propriété, elle est inversée là, par rapport à ce que vous dites là. C'est nous qui appartenons à ce territoire. Au territoire québécois. On se trouve sur ce territoire-là qui trouve des limites, des frontières qui ne sont pas reconnues par les Premières Nations. C'est un peu comme l'Afrique qui a été divisée complètement, arbitrairement, en divisant et les différents empires qui étaient sur place, ça a été exactement la même chose chez nous. Alors, il y a une partie des Innus qui se trouve du côté Terre-Neuve-Labrador. Il y a une partie des Cree qui se retrouve en Ontario, Manitoba. Les Algonquins, c'est pareil, en Ontario, au Québec. Chez les Mohawks, les Abénakis, il y en a qui se retrouvent aux États-Unis, d'autres au Canada. Alors, on chevauche là vraiment l'ensemble des frontières.
Les gros tambours powwow qu'on entend aujourd'hui, qui viennent de plus des plaines, de l'Ouest, c'est aussi une vision que qu'une femme a eue, mais dans la fin des années 1800. Là, puis je pense que les clochettes aussi, c'est soit fin 1800, début 1900, c'est quand même assez récent.
Occidentale aime la certitude, aime savoir où est la franche limite entre les uns et les autres. Donc, au Québec, si on veut, il y a 11 nations. En partant du nord, qui sont les Inuks, ou un Inuk des Inuits. Juste en dessous, il y a 3 nations, les Cree, plus à l'ouest, les Innus, les Naskapi. Plus au sud encore, il y a les Anishinabés, les Atikameks, les Abénakis. Dans la péninsule de la Gaspésie, là, il y a 2 nations, la nation Mi'kmaq avec 3 communautés, puis la nation Malécite. Puis ensuite, il y a 2 nations qui sont, eux, de la famille iroquoienne, les Mohawks, qu'on appelle, eux, s'appellent les Kanienkehaka, et les Wendat.
Les Chiches.
Pincière à mousse, pincière à lichen, toundra forestière et l'Arctique.
Chez nous, en ce moment, c'est d'engager les gens dans à rêver à nouveau, à se demander qu'est-ce qu'ils rêvent pour eux-mêmes, pour leur communauté sur 10, 20, 30 ans. Et donc, prendre les rêves de tout le monde, puis faire du rêve collectif un projet de société dans lequel les gens vont s'investir, vont engager un mouvement.
Mouche.
Je pense que c'est une génération qui va être plus capable de mélanger les mondes ensemble.
Pincière à lichen. Pincière à mousse.
Territoire, il est vécu, il est dans les rêves, on y a accès par les rêves. Justement, les rêves, c'est occuper une place centrale dans la plupart des cultures autochtones. Aujourd'hui, ça a presque disparu. Les vieux racontent que quand on vit dans la communauté, les rêves s'estompent. Quand on vit dehors, quand on dort dans une tente, quand on vit au cœur du territoire, le territoire nous enseigne la nuit. Il nous enseigne l'usage des plantes, il nous enseigne où se trouve le gibier, il nous enseigne comment améliorer justement la qualité de notre relation.
Mon père, il marchait dans la mer.
Il y a des marmots qui se trouvent.
Création radiophonique d'Eric Kem et Natacha Muslera, avec les voix d'Alexandre Bacon, Patrice Paul, Omer Saint-Onge, Véronique Audet, Pierre Grondin, Michel Garneau, Waoui, Olivier, Anne-Claire Museux. Remerciements: Anne Maton, Sonia Robertson, Sarah Clément, Eric Lacaza, Institut Tchakapèche, Conseil des Inuits, INA GRM, GMEM. Lauréat du programme Hors les murs de l'Institut français 2016, en partenariat avec la Muse en circuit. Mixage, Bruno Mourlan. Réalisation, Gilles Mardi-Rossian. Attaché d'émission, Inès De Bruyne. Production, coordination, Irène Omelianenko. Nita Sinan, le territoire nous enseigne la nuit.
Demain à 23h, rendez-vous avec Hélène Azéra. La semaine prochaine, Animaux en voie d'apparition par Raphaël Saint-Rémy, Benjamin Bourdonneau, Gilles Mardi-Rossian. Jeudi, S'évader par Benoît Bory, Charlotte Rouault, Annabelle Brouard.